C'est vraiment une introduction au sujet. Ce n'est pas pour les grands spécialistes. Et peut-être que je ne répondrai pas à vos questions. Et vous aurez l'occasion d'aller plus loin à la fin, si c'est le cas. Et la raison de ce sujet est, si vous voulez, double. En premier lieu, face à de nouvelles formes d'athéisme dans le monde occidental aujourd'hui, nous sommes devant des idées qui sont très courantes que Jésus n'a pas existé. Ceci est un peu nouveau. Et donc, il faut savoir que quelque chose sur les faits afin de pouvoir situer cette nouvelle forme de contestation. En deuxième lieu, il n'y a pas énormément de livres sur Jésus et les faits historiques. Il y a beaucoup de livres sur différents aspects du ministère de Jésus, toutes sortes de choses. Mais il n'y a pas vraiment le livre sur toutes les questions historiques de Jésus. Il faudrait peut-être un jour que quelqu'un commence à penser à l'écrire. En tout cas, ce ne sera pas moi. Le sujet est très vaste. Alors, quelques points d'introduction à ce sujet, et nous allons aborder le sujet en trois moments, progressivement un peu plus difficile. En premier lieu, le cas Jésus, que s'est-il passé? En deuxième lieu, comment décrypter ce qui s'est passé? Et en troisième lieu, et c'est le point le plus important, et le plus théologique aussi, est-il possible de croire en ce qui s'est passé? Donc, nous commençons avec le cas Jésus. Que s'est-il passé? Les grands événements et les témoins. Et ce qui pose problème, vraiment, dans cette contestation de l'historicité de Jésus. Et très souvent, ici, les questions centrent autour de ce problème. La résurrection a-t-elle eu lieu? Et nous aborderons cela rapidement en passant. Donc, en premier lieu, un petit mot d'introduction. Il y a parabole célèbre, parabole de Nathan le sage, qui est connu, et comme en parlant des religions, on parle très souvent de l'histoire des trois éléphants. Hein? Très souvent, en parlant de l'histoire, on parle de la parabole de Nathan le sage. Et ceci, je le raconte très rapidement parce que ça donne le contexte de l'incertitude moderne et postmoderne au sujet de Jésus. Et cette parabole dit, un homme riche avait une bague, mais trois fils. Et il va mourir. Et donc, que faire? Il a la solution idéale, il fait fabriquer deux bagues identiques à l'original, et alors chaque fils reçoit la bague qui est censée rendre heureux. Mais qui a la bague authentique des trois? On ne le sait pas. Et donc, c'est impossible de savoir. Peut-être on peut même se poser la question, est-ce qu'une telle bague a jamais existé? Et que faire? Et alors, Lessing, qui a raconté cette parabole, a dit, il faut que chaque fils agisse comme s'il avait la bague authentique. Et bien sûr, derrière cette histoire est l'idée qu'il y a le judaïsme, l'histoire de Jésus, le christianisme et l'islam. Et parmi ces trois, on ne saura peut-être jamais quel est le chemin authentique à Dieu. Mais l'important est que chacun agisse comme si on avait ce chemin authentique vers Dieu. Et donc, Lessing, qui a rendu célèbre cette parabole qui vient du Moyen-Âge, un contemporain de Voltaire, Lessing, il a formulé cette idée, les faits accidentels de l'histoire ne peuvent pas prouver les vérités de la raison. C'est un peu compliqué tout cela, mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que historiquement, on est toujours dans l'incertitude. Il vaut mieux se convaincre de la raison de la chose personnellement que d'essayer de décider la question historiquement. Contrairement à cela, ce que je vais dire, c'est qu'il y a suffisamment de faits historiques pour que nous puissions ne pas avoir d'incertitude et mettre notre confiance en Jésus. Alors, que s'est-il passé? Voici un point de départ. Vous voyez deux têtes ici et vous reconnaissez Jules César. Et peut-être que vous reconnaissez Jésus aussi. Et la question se pose, Jésus a-t-il jamais existé? Et je dis ceci juste pour montrer notre situation culturelle un peu. Si vous posez la question, Jules César a-t-il existé? Personne ne va le contester, cette réalité historique de César. Si vous posez la question de Jésus, vous vous trouverez face à la contestation. Il y a deux histoires, l'histoire du puissant et l'histoire du méprisé. Sur le plan historique, les témoignages à la réalité historique de ces deux personnes sont égaux. Et donc, pourquoi conteste-t-on les faits sur Jésus alors que pour Jules César, on ne se pose pas la question? Il y a ici quelque chose de très profond dans notre mentalité occidentale. Vous le voyez en allant dans n'importe quel musée archéologique. Vous pouvez voir des exposés sur Nebuchadnezzar, sur l'histoire du Moyen-Orient ancien, au musée de Londres, British Museum. C'est magnifique, la section du Moyen-Orient. Mais vous verrez que dans cette exposition, même si les textes bibliques sont les textes qui attestent mieux que tous les autres ce qui s'est passé au Moyen-Orient ancien, il n'y a aucune référence au musée à ces textes. Hein? Et ici, il y a le fait qu'on suppose que parce que c'est la Bible, c'est de la mythologie. Hein? Ça, c'est la mentalité courante. Et c'est pour cette raison qu'on remette en question Jésus, et on ne remet jamais en question Jules César. Hmm? Et il faut savoir que quand on discute à des gens qui se posent des questions, ils ont, comme par osmose, cette attitude vis-à-vis les textes bibliques. On suppose que ces textes ne sont pas authentiques. Hein? Voilà. Ce que je vais vous dire va aller donc dans l'autre sens. Voici, pour commencer, quelques faits au sujet de Jésus en dehors du Nouveau Testament. Et ici, vous ne voyez pas, mais c'est là quand même, une page du manuscrit de Flavius Joseph, le grand historien du judaïsme, dans son livre « Antiquité judaïque », écrite en 93, 80, excusez-moi, 93, 94. Voici ce que Joseph, Flavius Joseph, un juif, écrit. Vers le même temps, vint Jésus, faisait de miracles, il attira à lui beaucoup de juifs et de grecs, et lorsque sous la dénonciation de nos premiers citoyens, c'est-à-dire les pharisiens, Pilate l'a condamné à la crucifixion. Ceux qu'il avait d'abord chéri n'ont pas cessé de le faire, c'est-à-dire les disciples de Jésus ont continué à aimer Jésus malgré le fait qu'il a été maudit et crucifié. Et il y a aussi un texte syriaque de Flavius Joseph qui peut-être fait référence à la résurrection, mais on doute un peu de l'authenticité de ce texte, donc je ne le cite pas. Mais ici, Flavius Joseph parle très clairement de la crucifixion de Jésus. Le gouverneur romain Tacite, né en 55, dans ses annales, mentionne aussi Jésus. Et il dit, Néron livra aux tourments des chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Un historien, Talus, au troisième tome de son histoire, explique les ténèbres de la mort de Jésus par une éclipse solaire. Et il dit, cela me semble peu rationnel. C'est rapporté par un historien romain, né beaucoup plus tard, mais c'est quand même une référence aux ténèbres au moment de la mort de Jésus. Deuxième page dans ce premier volet, un Syrien appelé Mara Bar Serapion, ça pourrait presque venir de Tintin, n'est-ce pas, écrit une lettre en 73 et il dit « Quel avantage les Juifs ont-ils eu à exécuter le roi sage ?» Et il ajoute « Il n'est pas mort pour de bon, car il survit dans l'enseignement qu'il a laissé. » Que penser de cela? Est-ce que c'est une référence indirecte à la résurrection? Ou est-ce que c'est tout simplement une affirmation comme Jimi Hendrix est mort, sa musique vit toujours? Hein? À vous de décider. Lucien de Samosate, satiriste grec du IIe siècle, dit « Les chrétiens sont des gens misérables car ils pensent que leur chef est Dieu et qu'ils sont immortels. » Peut-être encore une référence à la foi en la résurrection. Mais ici, une référence indirecte à la divinité de Jésus-Christ. Et le Talmud de Babylone, le Mishnah vers l'année 2000, des commentaires des rabbins juifs fait mention aussi de Jésus. À la veille de la fête de Pâques, on pendit Jésus au bois, car il a pratiqué la magie et séduit Israël. Alors, ce qui est important dans ces textes, c'est que tous ces textes qui attestent que Jésus a existé viennent des ennemis de Jésus, hein, ou des incroyants. Et on peut résumer ici, de ces quelques textes, nous pouvons tirer quelques conclusions quand même. Alors, le grand militant de l'athéisme moderne, français, Michel Onfray, dans son livre « Contre-histoire de la philosophie », affirme ce qu'on appelle la thèse mythiste. L'existence de Jésus n'est qu'une hypothèse enracinée dans la mythologie, ce que dit Onfray. Mais un résumé des faits que nous venons de voir, en dehors de la Bible, donne la chose suivante. Il existait un homme juif, reconnu par ses ennemis. Son nom personnel était Jésus. Il est appelé Christos en grec, une traduction de l'hébreu Mashiach, « one ». Les Romains l'appelaient Christus. Il avait un frère nommé Jacques ou Jacob. Nous verrons ça dans quelques instants. Il avait des disciples, des Juifs et aussi des Grecs ou des païens. Les chefs juifs l'ont rejeté et Pilate a rendu son arrêt de mort et sa mort était par la crucifixion. Et finalement, il est mort alors que Ponce Pilate gouvernait la Judée entre 26 et 36. Et voici résumé tout ce qu'on peut savoir de Jésus et de son existence en dehors de la Bible. Mais nous pouvons donc faire un bilan provisoire et c'est très bien fait par l'Encyclopédia Britannica, c'est l'Encyclopédie Universalis en anglais, de 2002, conclut son article au sujet de Jésus de la façon suivante. Les récits indépendants montrent qu'à des époques reculées, même les adversaires du christianisme n'ont jamais douté que Jésus ait réellement existé. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, au cours du XIXe et au début du XXe siècle, que l'historicité de Jésus a été pour la première fois et pour des motifs insuffisants contestée par divers écrivains. Ça, c'est dans l'Encyclopédia Britannica. Et dans un livre publié par les presses universitaires de France, en 2006, vous savez, les presses universitaires de France ne sont pas célèbres pour publier des bandes dessinées. Hein? Un livre de deux spécialistes, Mimouni et Maraval, à la page 80, « Le christianisme des origines à Constantin », écrit en 2006, disent la chose suivante. Nous pouvons dire que Jésus est certainement l'un des personnages les mieux attestés de l'Antiquité et la diversité des sources le concernant rend la thèse mythiste insoutenable. Et je suppose que ces gens qui écrivent cela sont des spécialistes reconnus et des gens de bonne foi. Alors que Après cette introduction à quelques textes, je voudrais prendre une autre approche importante. Et ceci est pour moi, je pense, le point de vue capital. Parce que très souvent, l'argument que nous trouvons est le suivant. Les textes des évangiles sont très loin du moment quand Jésus est mort et donc ne sont pas du tout fiables. Et par exemple, au siècle dernier, on affirmait que l'évangile de Jean était écrit au milieu du deuxième siècle, donc ça ne pouvait pas provenir de l'évangéliste Jean. Je veux contester cette idée de l'origine tardive des évangiles. Et voici comment je compte le faire. Pensons à deux grands événements et leurs témoins. En bas, ici, une fresque de la déportation des Juifs de Jérusalem lors de la destruction du Temple en l'année 70. Le grand événement au premier siècle. L'événement incontournable, massacre inouï et fin de la nation juive. Enfin, encore plus important, fin du Temple et fin des sacrifices. C'est donc le grand événement. Si nous allions faire une comparaison avec notre siècle, le grand événement serait évident, ce que vous voyez. Et l'événement du début du 21e siècle, c'est cela. L'événement du 1er siècle, c'est cela. Et voici la chose la plus importante à ce sujet par rapport aux dates des Nouveaux Testaments. C'est que le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ne fait aucune mention du tout de la destruction du Temple. Est-ce qu'il serait possible, imaginable, aujourd'hui, d'écrire l'histoire du début du XXe siècle sans parler des deux tours à New York? Non, c'est impossible. Est-ce qu'il est possible pour les évangélistes qui croient en plus à la fin du judaïsme avec l'enseignement de Jésus, qui inaugure la dernière alliance avec le peuple de Dieu, est-ce que c'est possible de penser que s'ils avaient écrit après la destruction du Temple, ils ne l'auraient pas mentionné? Ce n'est pas possible, je pense. Et donc, on date très souvent l'évangile de Jean, maintenant, et Jean parle de son ascension à la fin de son évangile entre 60 et 70. Et cela pour la raison qu'on a trouvé un fragment de l'évangile de Jean qu'on date en Égypte vers 112-115. Pour que cela arrive là, pour rester en fragment là, en l'année 115, il aurait fallu un peu de temps quand même. Et donc, les dates de l'évangile de Jean sont ainsi. Mais un néo-testamentaire britannique, évangélique, bien connu, John Wenham, a écrit un livre, redaté l'évangile de Matthieu et Marc. Il dit que Luc avait écrit son évangile avant 55, Marc vers 45 et Matthieu vers l'année 40. C'est le plus tôt qu'on ose aller dans la datation des évangiles. Je ne sais pas si Wenham a raison, c'est possible. Mais je pense que ce qui est incontestable, c'est que tous les écrits du Nouveau Testament ont été écrits avant l'année 70. C'est-à-dire, ils sont tous assez proches de Jésus pour être vérifiés par des témoins oculaires et pour être écrits par des apôtres qui étaient ses disciples. Voilà mon argument. Et puis, cet argument a été avancé il y a une trentaine d'années par un évêque de l'église anglicane de Londres, John Robinson, qui était tout à fait libéral dans sa théologie. Il ne croyait pas comme nous, pas du tout. Mais dans son livre « Redater le Nouveau Testament », qui a été traduit en français en l'année 87, il affirme que tous les livres du Nouveau Testament sont écrits avant l'année 70. Donc, ce n'est pas uniquement les évangéliques qui croient cela. C'est aussi les gens qui n'ont aucun intérêt à défendre l'historicité des évangiles. Alors, voici un point de vue important pour la fiabilité des évangiles. Et je pense que nous devons utiliser cet argument pour souligner la fiabilité des évangiles aux gens qui disent « mais les évangiles sont très tardifs, nous ne savons pas qui en sont les auteurs, etc. etc. » Alors, nous allons un peu plus loin et nous allons parler de Jésus et des apôtres. Luc 6, verset 13, dit la chose suivante. Et c'est un point très important dans le même sens que j'oriente les choses cet après-midi. Jésus appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Alors, si vous êtes lecteur, lectrice, attentive de votre Bible, vous verrez que les disciples sont des disciples partout dans les évangiles et dans les actes des apôtres, ils deviennent, après la mort et la résurrection de Jésus, des apôtres, c'est-à-dire des témoins envoyés. Et Eusèbe de Césarée, au milieu du IIIe siècle, Eusèbe de Césarée, c'est le grand historien des premiers jours du christianisme. Dans son histoire ecclésiastique, dit la chose suivante sur le Nouveau Testament. Et il le fait sur la base de la recherche qu'il a entreprise à ce sujet afin d'écrire son histoire. Ce n'est pas l'histoire comme nous le faisons aujourd'hui, bien sûr, mais Eusèbe a ramassé les différents témoignages à ce sujet pour écrire son histoire ecclésiastique. Et il dit la chose importante pour nous, récapitulant la liste des écrits du Nouveau Testament, il faut placer en première place la sainte tétrade des évangiles, Matthieu, Marc et Luc, que suit le livre des actes des apôtres. Après ce livre, il faut citer les épîtres de Paul, à la suite desquels on doit recevoir la première attribuée à Jean et également la première épître de Pierre. À la suite de ces ouvrages, il faut ranger l'Apocalypse de Jean. Tels sont les livres reçus universellement. Parmi les apocryphes, il faut ranger le livre des actes de Paul, l'ouvrage intitulé « Le pasteur » de Hermas, l'Apocalypse de Pierre et de plus l'épître attribué à Barnabé, ce qu'on appelle les enseignements des apôtres, la didache. Alors vous voyez qu'ici, au IIIe siècle, Eusèbe a une idée plus ou moins compacte de ce que nous voulons dire par les témoignages à Jésus-Christ. Et par les apôtres, voici mon argument, nous savons beaucoup de choses sur Jésus. Nous savons plus de Jésus que d'autres personnes de l'Antiquité. Nous savons qui sont ses disciples, ses lieux de visite, sa famille, son métier, son âge, à sa mort. Nous reconnaissons ces 3 années de ministère, les débuts, peut-être en l'année 27, l'année de sa popularité et l'année du rejet, sa trahison, son abandonnement par ses amis. Nous savons comment il est mort sur la croix entre 9h du matin et 15h le vendredi 7 avril l'année 30 et aussi les 7 paroles qu'il a dites de la croix pendant ses souffrances. Nous savons de ses témoignages ce que pensait Jésus de sa mission, de sa personne et de ses prophéties. Mais il y a aussi des choses que nous ne savons pas. Son enfance et sa jeunesse, il y a des trous. Comment il était, nous n'avons rien sur son apparence, ce qu'il aimait faire, sa vie intime, etc. Nous en savons très peu. Mais la vie publique de Jésus, nous avons beaucoup d'informations. Qui fait que Jésus, si nous lisons sérieusement les évangiles, c'est une des personnes les mieux attestées de l'Antiquité. Un mot complémentaire sur ce qu'on appelle l'ossuaire de Jacques. On a trouvé, il y a quelques années, un ossuaire avec l'inscription que je ne vais pas lire en araméen, qui dit « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus hein? ». Le professeur André Lemaire, philologue à l'École pratique des hautes études, dit « Cette inscription en araméen est la première preuve archéologique corroborant la réalité historique de l'existence de Jésus ». Qui est le Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus? Est-ce que c'est Jacques le Juste, son frère lapidé vers l'année 63? On pourrait le penser. L'inscription est en araméen et c'est du 1er siècle, l'ossuaire aussi, et donc il y a ici un fait archéologique, historique, important par rapport à Jésus. Alors, troisième point, toujours dans le cas Jésus, ce qui pose problème aux gens. Il n'y aurait pas de problème si Jésus était un autre, comme Socrate, Bouddha, etc., un prophète, quelqu'un de génial, tout simplement humain, comme ces autres grandes personnes de l'histoire. Ça ne poserait pas de problème du tout. Ce qui pose problème à deux niveaux. En premier lieu, le fait qu'il y a 4 évangiles, très souvent, on dit, puisqu'il y a 4 évangiles, cela diminue l'authenticité de Jésus. Pourquoi 4? Mais le problème se pose par rapport aux 4 évangiles uniquement si on pense qu'il y a des contradictions entre les 4. Alors, nous pouvons poser certaines questions par rapport aux détails. Mais sur les grandes lignes du témoignage de Jésus, aucun évangile ne dit que Jésus n'est pas né d'une vierge, que Jésus n'a pas commencé son ministère en étant baptisé par Jean-Baptiste, que Jésus n'a pas appelé 12 disciples, qu'un disciple n'a pas trahi Jésus. Aucun évangile ne dit que Jésus n'est pas mort sur la croix ou n'est pas ressuscité. Donc, quatre témoignages, quatre évangiles, donnent en réalité quatre preuves complémentaires. Et c'est encore plus fort que s'il n'y avait qu'un seul témoignage à la vie de Jésus. Nous en avons quatre. Et les quatre se complètent et se confirment. Mais il y a en plus une difficulté matérielle. Et c'est ici, depuis le philosophe écossais David Hume, le grand problème de la mentalité moderne. La difficulté matérielle, la vraie difficulté avec l'histoire de Jésus sur le plan historique est posée par les miracles de Jésus, par le surnaturel qui encadre la vie de Jésus. Le fait que la vie de Jésus commence par une naissance virginale et se termine par le récit de sa résurrection d'entre les morts. Le théologien néo-orthodoxe suisse Émile Brunner de Zurich a rejeté la naissance virginale de Jésus parce que cela ne se trouve que dans deux des quatre évangiles. Mais Karl Barth, le grand théologien suisse-allemand de Bâle, a contredit Brunner. Il a dit non, la vie de Jésus est encadrée par deux miracles. Et ces deux miracles sont le miracle de l'incarnation. Et donc, ça reste le grand problème. L'idée des miracles, le miracle de Jésus et les miracles qu'il a faits. Et c'est ça vraiment qui fait que les gens s'opposent au témoignage de Jésus-Christ. Mais quand on y pense pour un instant, la création de notre monde est le plus grand miracle. Et si on croit à la création, on croira aussi que Dieu est le Dieu. S'il peut nous maintenir sur cette planète qui est en train de traverser l'espace à une vitesse très importante, et si Dieu maintient le système de notre univers, Dieu qui est créateur est aussi. Il faut retourner l'argument. Notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et c'est pour cette raison que nous croyons en lui. Et donc, il ne faut pas être gêné par les miracles. Si notre Dieu ne fait pas de miracles, il ne vaut pas la peine de croire en lui. Nous croyons en lui parce qu'il fait tout cela. Et non pas en dépit du fait qu'il fait tout cela. Et évidemment, le grand problème, c'est la résurrection de Jésus, qui est attestée dans les textes. Et voici les textes que vous connaissez très bien. Je retiens ici tout simplement un texte. Les autres, vous les connaissez sans doute très bien. Je n'ai pas besoin de faire des développements à ce sujet. Mais je relisais l'autre jour l'incident où l'apôtre Paul fait son témoignage devant Festus et Agrippa. Et à un certain moment, Festus crie, Paul, tu es dingue, tu es fou, tu as beaucoup trop lu, et ça t'a détraqué. Et l'apôtre, précisément, vient de parler de la résurrection de Jésus. Et il répond, non, Excellence, je ne suis pas fou. Tout ce que je vous dis est vrai et certains de nos Bibles traduisent rationnel ou logique, mais nous pouvons traduire aussi sensé. cela se tient, c'est cohérent. Il y a dans le Nouveau Testament à peu près 200 références dans le Nouveau Testament à la résurrection de Jésus entre les morts. Si nous voulons enlever cela, évidemment, il ne reste pas grand-chose. Et les objections, dès les débuts, sont toujours les mêmes. Les objections contre la résurrection n'étaient pas inventées au 19e ou au 18e siècle, ou même au 20e siècle. Ils étaient inventés de toutes pièces tout de suite après par les ennemis de Jésus. Il s'est évanoui. Les disciples ont volé son corps. L'objection du jour de Pentecôte, ils sont fous. Ou un autre est mort sur la croix. Hein? C'est l'objection de l'islam dans le surat 4, 157 et 158, ce qui dit que Jésus était ni tué ni crucifié, mais c'était un faux. Quelqu'un d'autre a pris la place de Jésus. Et le Coran dit que les chrétiens ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a enlevé vers lui. Et c'est quand même très bizarre. On nie la crucifixion dans l'islam, mais il y a une sorte de porte ouverte à la résurrection. Allah l'a enlevé. Peut-être une référence à Moïse et Élie. Jésus est ressuscité, dit-on, non corporellement, mais spirituellement, dans la foi de ses disciples. C'est la grande objection de Rudolf Bultmann, théologien libéral au siècle dernier. Mais comment les onze disciples et les autres sont-ils tous ensemble passés du doute à la fois en 3 jours? Et puis aucun des témoins oculaires par la suite n'est jamais revenu sur sa confession. Quand il y a des conspirations, il y a toujours quelqu'un qui rompt le silence tôt ou tard. Que penser de l'insistance du Nouveau Testament sur le nombre des témoins? Voilà, ceci est, en dehors du Nouveau Testament et dans le Nouveau Testament, quelques faits qui sont quand même, je pense, incontestables contre la thèse mythiste que Jésus n'a jamais existé. Très rapidement, le deuxième point, comment décrypter ce qui s'est passé? Quelques points pour l'interprétation chrétienne de l'histoire de Jésus et de la résurrection. Pourquoi les faits historiques de Jésus ne sont-ils pas reconnus par tous? Hein? Quelquefois, cela est utilisé comme argument contre nous. Il n'y a que les croyants qui acceptent ce qu'ils affirment par rapport à Jésus. Ces faits ne sont pas reconnus par tous. Mais il y a des explications de cela qui sont tout à fait recevables. Depuis le début, en premier lieu, Jésus a choisi la marginalité. Son histoire n'est pas l'histoire des autorités, mais l'histoire d'un enfant, selon ses accusateurs, né de la prostitution. Jésus est un marginal, un exclu, un rejeté, dès le début. Et l'histoire de Jésus est racontée du côté des victimes, non du côté des vainqueurs. Ça va contre toute l'histoire telle qu'elle est racontée dans les grands empires et cultures du monde. Jésus, Pierre et Paul, en troisième lieu, savaient tous qu'ils seraient rejetés par le monde. Ils s'y attendaient. En quatrième lieu, Jésus n'a jamais soigné son image pour se faire accepter. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Et Jésus fonde son royaume sont des témoins choisis, les disciples deviennent les apôtres des envoyés. Et après le départ de Jésus, les apôtres sont des ambassadeurs qui parlent de la part de Jésus et qui présentent le sens de la vérité. Et en Galates 1, verset 1, Paul donne les trois sens précis au mot apôtre, non de la part des hommes, mais par Jésus-Christ, qui est Dieu le Père, qui l'a ressuscité entre les morts. Et voici ce qui est important pour décrypter le sens des faits historiques de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il faut suivre le témoignage apostolique. Et maintenant, en dernier lieu, le troisième grand passage, est-ce que c'est possible de croire en ce qui s'est passé? Nous avons vu les faits, en quelque sorte, comment ces faits sont décryptés par les témoins, les apôtres, qui sont appelés pour faire cela, mais pouvons-nous croire cela? Et c'est ici les choses deviennent importantes. Et donc, la vérité, si je mens, quatre. Hein? Selon Martin Luther, la foi authentique a trois actions. Savoir, accepter et se confier. Et la vraie foi est faite par la troisième action, le fait de se confier. On peut savoir quelque chose, on peut accepter quelque chose, mais si on ne se confie pas en cette réalité, avec la confiance, on n'a pas la vraie foi. Et la foi chrétienne est entièrement vraie en ce qu'elle affirme et comporte sa propre rationalité. Elle est cohérente. Si ce n'était pas le cas, nous ne pourrions pas nous y confier. Il y a une correspondance entre la foi que nous croyons et la réalité réelle, objective, qui est racontée dans les évangiles. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons prouver ou démontrer la foi. Et Pascal nous a rappelé que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et la raison autonome n'est donc pas le moyen de saisir Dieu et de comprendre la réalité historique de Jésus-Christ. Il faut plus que la raison qui sait ou qui accepte. Il faut se confier. Il faut la foi comme conviction fondamentale afin de pouvoir saisir Dieu. Pourquoi? Parce que les vérités de la foi, tout ce à quoi nous croyons, même les vérités historiques, ne sont pas d'ordre mathématique, démontrables scientifiquement. Ce sont des vérités personnelles et implique un changement de cœur envers Dieu, vis-à-vis de Dieu. Et donc, le sens de la foi, le sens de croire, pouvons-nous croire en ce que nous lisons dans la Bible? Ce n'est pas par un saut de la foi. La foi n'est pas un saut dans le vide. Et croire ne veut pas dire tout comprendre, parce que nous ne pouvons pas sonder le comment de la personne de Jésus, de sa naissance, de ses miracles, de sa résurrection, mais nous pouvons en connaître la réalité. Nous croyons le que des faits, que Jésus est né d'une vierge, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Nous savons le que Dieu est créateur, que Dieu a agi dans l'histoire, que Jésus est venu nous sauver, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il reviendra un jour, toutes ces choses dans le domaine de la réalité objective affirmée par la Bible sont des choses que nous saisissons parce que Dieu les affirme dans sa révélation. Mais pourquoi et comment ces choses-là sont en dehors de notre compréhension? Et voici le modèle. Chaque fois que Dieu agit dans son monde, nous voyons le que de ce que Dieu accomplit. Mais nous ne comprenons jamais le pourquoi et le comment. Et donc, ceci appelle notre foi, parce que le pourquoi et le comment sont en dehors de la vision de notre compréhension finie. Que croyons-nous donc? Nous croyons en premier lieu que Jésus est ce qu'il a dit de lui-même. Nous croyons tout ce que Jésus a dit à son sujet. Et nous croyons que les choses que les apôtres ont dit à son sujet. Que Jésus est ce que les apôtres disent de lui. Nous croyons ce que Jésus dit de lui-même, mais et nous croyons que les apôtres affirment un certain nombre de choses à son sujet. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus, mais c'est parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Le que nous avons vu de nos propres yeux. Et donc, ceci suscite la foi en cette réalité parce que nous pouvons recevoir cette réalité pour y croire. Et finalement, qui peut croire ces choses, tout cela? La grande question de Martin Luther à Erasme. Qui peut se croire aimé de Dieu? Et Luther répond, très franchement, personne ne le peut, mais les enfants de Dieu le feront. Qui peut croire que Jésus est mort pour vous et ressuscité? Personne ne le peut, mais les enfants de Dieu le feront. Autrement dit, personne ne peut y croire naturellement par ses inclinations, son intelligence ou ses capacités. Mais grâce à l'Esprit de Jésus vivant, nous recevons la vie et nous croyons. C'est une adhésion personnelle, spirituelle à Jésus. Lazare est mort au tombeau, mais quand Jésus l'a appelé, le mort est sorti vivant. Et c'est ce que nous faisons par la foi, parce que Jésus nous appelle. Et il nous atteste par lui-même et par ses disciples, aussi par les attestations en dehors de l'Écriture, qu'il est ce que nous croyons. Voici donc une introduction à notre sujet. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le petit livre de Éric Denimal et Mathieu Richel, Jésus-Christ pour les nuls, qui connaît beaucoup d'autres faits que je n'ai pas eu le temps de vous transmettre. Merci d'avoir écouté.